Wiens.
It's Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people housing.
France Inter, le 18-20.
L'Europe dans la crise ukrainienne, c'est quoi son numéro de téléphone? Eh bien, c'est l'eurodéputée Nathalie Loiseau qui va nous le dire. Elle en revient avec une délégation. On verra ensemble quelles assurances l'Europe peut donner aux Ukrainiens, combien nous pesons aussi. Le bruit du monde, on ne change pas de salle, mais d'ambiance. En revanche, nous allons en Crimée, annexée justement depuis 2014 par les Russes. Vous verrez combien un retour en arrière vers l'Ukraine est plus qu'improbable. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Eugénie a trouvé un pèlerinage virtuel à la Mecque. Un soldat chinois sur le chemin de la flamme olympique qui met l'Inde en colère et un livre choc en Espagne sur la cocaïne et son trafic. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et Pierre Benazet qui revient avec nous sur la fameuse taxonomie, le gaz et le nucléaire vert. 18h55, le monde d'après de Franck Mad. Vont au Canada, où comment la colère des anti-vax fragilise Justin Trudeau. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Nathalie Loiseau.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes eurodéputée La République En Marche, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen. Vous revenez donc d'Ukraine où toute une délégation européenne s'est déplacée à Kiev, mais aussi à Mariupol, ville stratégique s'il en est. Et vous avez, Nathalie Loiseau, assuré aux Ukrainiens de votre soutien, et c'est important, mais qu'est-ce qui se passe après? Quels sont les signes concrets que vous pouvez donner, que vous comptez donner aux Ukrainiens disant que l'Europe est bien là?
Alors c'était important d'y aller parce que ça rassure la population de voir qu'on vient et qu'on vient pas seulement à Kiev voir des officiels mais qu'on vient sur le terrain au plus près de la ligne de front. Ce qui est important aussi c'est qu'il y a une aide financière d'urgence que l'Union européenne vient de débourser pour l'Ukraine, 1,2 milliard. Ce qui est important c'est l'unité des Européens qui se fait petit à petit comme d'habitude mais qui va dans la bonne direction.
On va y venir.
C'est-à-dire être prêt à reprendre le chemin de la diplomatie. Il y a énormément de contacts, énormément de coups de téléphone. Il y a eu une première réunion où, en France, on a réussi à mettre autour de la table russes et ukrainiens avec les Allemands. Et aussi être prêt, si jamais Vladimir Poutine allait plus loin dans son intimidation, qui est déjà extrêmement forte, et agresser militairement l'Ukraine, à prendre des sanctions sans précédent.
Alors, vous avez déjà dit sans précédent. D'abord, est-ce que vous revenez avec le sentiment d'une guerre imminente ou pas, honnêtement?
Alors, ce qui est très frappant, c'est la résilience de la population ukrainienne qui en réalité vit dans un état de semi-guerre depuis 2014, hein, la ligne de front dans le Donbass à l'est de l'Ukraine.
Mais on est loin du Donbass à Kiev en fait, donc on le sent pas de la même manière peut-être.
On le sent pas de la même manière, mais même quand on y est, même quand on est à Mariupol, les gens vont à leur travail, ne font pas de stock de vivres, ne s'en vantent pas. Ils ont décidé qu'ils avaient choisi l'indépendance, la liberté, la souveraineté, qu'ils veulent être libres de leur avenir, de leur partenariat, et quelque part, ils ne s'en laissent pas compter.
Mais, pardon Nathalie Loiseau, vous dites quoi, vous, l'eurodéputé? Oui, il y a une guerre imminente, est-ce que vous l'avez senti, y compris dans vos rencontres avec les officiels, ou est-ce que vous dites pour l'instant, non, c'est quelque chose que je ne dis pas, que je ne prononce pas?
Imminente, je ne sais pas, mais il n'y a pas par hasard plus de 100 000 soldats russes avec des équipements lourds à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas par hasard des manœuvres en Biélorussie avec les Russes à une date où il n'y en a pas d'habitude et à une ampleur qui est là aussi tout à fait inhabituelle. Il y a une pression militaire, c'est clair. Il y a une pression économique. Quand on va dans le port de Mariupol, qui est sur la mer d'Azov, cette mer d'Azov est aujourd'hui bloquée par les Russes. C'est une espèce de blocus qui ne dit pas son nom. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas un seul bateau dans le port de Mariupol. Et puis, il y a une pression psychologique. Énormément de désinformation de médias ou de réseaux sociaux déclenchés depuis Moscou. Des cyberattaques qui ont déjà frappé l'Ukraine. Des fausses alertes à la bombe tous les jours, qui sont là pour jouer sur les nerfs de la population.
La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que hier, vous êtes rentré hier matin, et hier, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a dit: il est temps que Bruxelles entre dans le détail des sanctions qui seraient imposées à la Russie. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Il a même ajouté, sinon la Russie pourrait penser que c'est un coup de bluff.
Alors, le coup de bluff, c'est en tout cas la tentation de Vladimir Poutine de tester la résolution des Européens, de tester
la mettre
résistance
au défi même,
des Ukrainiens. Il ne s'agit pas de mettre sur la table en détail des sanctions qui, si on les annonce à l'avance, permettraient, le cas échéant, à certains Russes de s'y préparer. Mais tout le monde le sait, les Européens, en lien avec les États-Unis, en lien avec le Royaume-Uni, travaillent à un système de sanctions véritablement sans comparaison avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors les gros sujets, c'est le sujet du gazoduc Nord Stream 2, qui dont la construction est terminée, mais qui n'est pas mise en service. Et petit à petit, le nouveau gouvernement allemand, qui vient à peine de se former et qui est confronté à sa première crise, dit s'il y a une agression militaire russe en Ukraine, la question de la mise en service de Nord Stream 2 sera posée. Ça va dans la bonne direction.
Il y a le gazoduc, mais il y a aussi de toute façon notre dépendance à tous, à différents degrés, notre dépendance économique à tous, à la Russie. Donc ça concerne les Allemands, effectivement, vous avez raison au premier chef, c'est pour ça que c'est compliqué, ça tangue un peu du côté des Allemands, mais au fond, c'est quelque chose qu'on a tous en tête, aussi notre dépendance vis-à-vis des Russes.
De toute façon, il est temps qu'on mette sur la table le type de dépendance que l'on a en matière énergétique. Il faut qu'on arrive à diversifier nos sources d'énergie et nos fournisseurs. On y travaille. Ceci étant, la dépendance vaut dans les deux sens, parce que le marché européen pour le gaz russe est un marché essentiel. Est-ce que Vladimir Poutine est prêt à dire au monde économique russe, à la population russe, on va se priver de ce débouché? Il faut qu'il se pose la question de savoir si ses aspirations vis-à-vis de l'Ukraine en valent la peine. Et nous faisons en sorte de lui dire, vous avez énormément à perdre et on ne voit pas ce que vous avez à gagner.
Et en même temps, Poutine pose ses conditions à l'OTAN. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il a marginalisé l'Europe. A-t-il marginalisé l'Europe? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes au contraire en train de revenir dans le jeu? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous revenez dans le jeu?
Ce qui est clair, c'est qu'il veut marginaliser l'Europe. Parce que quel est le défi de l'Ukraine auquel il est confronté? Un pays aujourd'hui avec une démocratie libre, avec un modèle économique qui regarde vers l'Ouest. La jeune génération qui est largement au pouvoir aujourd'hui, c'est très frappant. On rencontre beaucoup d'interlocuteurs jeunes. Ce sont des gens qui n'ont pas connu l'Union soviétique, que ça n'intéresse pas. Il n'y a plus de force d'attraction naturelle de la Russie. Et en fait, c'est cette Europe qui dérange Vladimir Poutine parce qu'elle est un contre-modèle à tout ce qu'il fait lui en Russie. Donc il a voulu écarter l'Union européenne. En réalité, il y a une concertation permanente entre Européens, entre les Européens et les Américains. Il y a de la part de pays qui sont dans l'Union européenne mais qui ne sont pas dans l'OTAN, comme la Finlande, comme la Suède, on entend des choses qu'on n'avait jamais entendues jusqu'à maintenant. Ces pays ne disent pas « on va rentrer dans l'OTAN demain », mais ils disent « on veut être libre de choisir de rentrer dans l'OTAN si ça nous convient ». On ne veut pas qu'un pays extérieur, la Russie, nous autorise ou nous interdise nos alliances.
Viktor Orban, qui est à côté de Vladimir Poutine, tente de se poser en médiateur et dit « je me fais le porte-parole ». En gros, il l'a dit hier, « nous ne voulons pas la guerre ». Est-ce que ça vous tire une balle dans le pied ou est-ce qu'il vous aide, là, Viktor Orban ?
Personne ne veut la guerre. Et le récit russe qui est que la Russie serait menacée par l'OTAN est un récit absurde. C'est pas l'OTAN qui masse plus de 100 000 hommes avec des intentions impures vis-à-vis de la Russie.
Mais est-ce que là, il y a le récit hongrois? On a parlé du récit allemand, on va venir au récit français puisqu'il va y avoir effectivement une rencontre, en tout cas un coup de fil entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Vous le disiez, il y a le récit de l'Europe du Nord qui est différent, il y a celui de l'Europe de l'Est qui, elle, a des frontières. On a toujours le sentiment quand même que nous avons tous en Europe un récit très différent autour de ces questions.
Nous avons des nuances qui sont liées à notre histoire, à notre géographie, à notre culture, mais moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a une vision commune que l'Ukraine a mérité son indépendance, a le droit à sa souveraineté, au respect de ses frontières, au respect de son intégrité territoriale. Et ça, c'est largement partagé. Il faut dire une chose, Kiev est à moins de 3 heures d'avion de Paris. On ne parle pas d'un conflit lointain dont on pourrait se dire qu'il ne nous concerne pas.
Sur le territoire européen, j'ai mis des guillemets parce que c'est un territoire.
En tout cas, géographiquement, c'est l'Europe. Et aujourd'hui, j'allais dire intellectuellement, culturellement, pour les Ukrainiens, c'est vers l'Europe qu'ils regardent, pas ailleurs.
Vous le disiez, personne ne veut la guerre, et pardon de le dire comme ça, mais on le sait, personne n'ira mourir pour Kiev, enfin qui est la formule un peu consacrée. Faut-il livrer des armes à l'Ukraine, cependant ?
Il faut livrer des armes à l'Ukraine. D'ailleurs, un certain nombre de pays occidentaux, dont des pays européens, le font déjà.
Un certain nombre, la Pologne par exemple, etc. L'Allemagne, elle dit non. Est-ce que nous, la France, on livre des armes,
par exemple ? On n'a pas besoin de l'annoncer pour le faire.
Donc on le fait.
Ce qui me pose question, c'est l'attitude de l'Allemagne. L'Allemagne a une industrie d'armement. L'Allemagne exporte des armes, par exemple vers la Turquie, a toujours refusé qu'il y ait un embargo des livraisons d'armes vis-à-vis de la Turquie. L'Allemagne dit livrer des armes, c'est rajouter de la tension. Mais c'est pas nous qui rajoutons de la tension. L'Ukraine a besoin d'un soutien concret. Et l'Union européenne elle-même envoie du matériel, certes non létal, mais du matériel qui aide l'armée ukrainienne pour l'aider dans sa mobilité, pour l'aider à résister aux cyberattaques. Là-dessus, l'Union européenne est déjà mobilisée.
Donc du non-létal, mais aussi du létal. Donc, alors les armes polonaises, on le sait, mais nous aussi, par exemple, on envoie des.
Alors, c'est pas.
Armes,
moi, je suis pas le porte-parole du gouvernement français. Donc, moi, je parle en tant que députée européenne. Je suis favorable à ce qu'on livre des équipements militaires à l'Ukraine. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que les premiers à ne pas vouloir la guerre, ce sont les Ukrainiens. D'ailleurs, on voit bien dans ce que dit le président ukrainien sa grande retenue, son souci de ne pouvoir être accusé d'aucune forme de provocation. Mmh. Il veut protéger sa population, mais il n'a pas envie de se soumettre au diktat de Poutine.
Nathalie Loiseau, on le disait, donc il va y avoir une entrevue, une rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ça va se passer demain. Qu'est-ce qu'il a dans sa besace, Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que l'Europe a envie qu'il lui dise ? Parce qu'il faudra bien que ce soit une sorte de donnant-donnant. Il va pas simplement lui dire c'est pas bien, il faut renvoyer vos 100 000 hommes. Qu'est-ce qu'il a dans sa besace ?
C'est laisser l'Ukraine tranquille. Pour nous, c'est une préoccupation de sécurité pour tous les Européens. D'autre part, il y a un format de négociation qui existe, celui auquel je faisais allusion, qu'on appelle le format Normandie. Donc, les Français et les Allemands qui mettent autour de la table les Russes et les Ukrainiens sur la question précise du Donbass, sur cette seule question. Il y a eu des accords, les accords de Minsk. Il faut s'assurer qu'ils sont complètement respectés par les deux côtés. De ce point de vue-là, un début de conversation a eu lieu. Le conseiller de Vladimir Poutine s'est engagé au respect du cessez-le-feu. Alors c'est un drôle de cessez-le-feu parce qu'il y a quand même des canonnades, des tirs en permanence. Maintenant, la France travaille au renforcement de ce cessez-le-feu.
Mais donc
c'est très difficile, c'est fragile, mais c'est le début. Quand on se parle, on se tire pas dessus.
Alors voilà, est-ce que c'est ça qu'il a dans sa besace en fait ? Vous pouvez sortir la tête haute si vous négociez. Est-ce que ça veut dire exactement ça ? Si
l'objectif, c'est évidemment de trouver une voie de désescalade, une voie diplomatique et de ne pas faire parler les armes. Ça n'est pas simple. C'est un risque que prend Emmanuel Macron, mais il a raison de le prendre parce que c'est ce qu'on attend d'un pays comme la France et il est pleinement au rendez-vous.
J'allais dire la morale, en fait. Il n'y a pas de morale encore, hein, c'est pas fini, mais de cette affaire ukrainienne, Nathalie Loiseau, c'est que, au fond, on parlait de l'OTAN tout à l'heure, les États-Unis sont revenus dans la géopolitique européenne, alors que jusqu'à présent, on sait bien qu'ils regardaient de l'autre côté, si bien d'ailleurs qu'on avait dit, y compris la France, que il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait revoir sur l'OTAN. Donc ils se réengagent. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, selon vous, ou pas ?
Alors, ce qui est certain,
c'est
que Joe Biden,
j'en ai une autre derrière,
n'avait pas prévu de devoir revenir sur ce terrain européen. Vous l'avez dit, il regardait vers l'Indo-Pacifique, vers la Chine. C'était sa priorité. Il voulait une relation stable et sûre avec Vladimir Poutine. Il découvre que ça n'est pas possible. En tout cas, pas en ce moment, pas comme ça. La bonne nouvelle, c'est que Russes et Américains se parlent. C'est nécessaire. On se souvient que même au temps de la guerre froide, on a inventé le téléphone rouge pour éviter les escalades qui pouvaient se transformer en affrontements. Donc moi, je considère que c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que on ne parle pas de sécurité de l'Europe sans les Européens.
Alors voilà, parce que
et ça on y veille.
Parce que ce qu'on constate aussi, c'est que oui, les États-Unis, au fil de cette crise-là, sont en train de se réengager avec l'Europe. Mais du coup, on entend aussi un certain nombre de pays dire ben, nous, de toute façon, pour notre sécurité, l'OTAN, c'est quand même sacrément plus fiable que l'Union.
Alors, c'est fiable, c'est C'est nécessaire, et d'ailleurs, la France prévoit d'envoyer des troupes sous commandement de l'OTAN en Roumanie, donc un pays qui est frontalier de l'Ukraine, qui est présent en mer Noire. Ça n'est pas par hasard, il faut rassurer tous nos partenaires à l'est de l'Europe qui entendent que Vladimir Poutine voudrait s'assurer qu'il devienne une espèce de cordon de sécurité. Ça n'existe plus, les zones d'influence. On ne raisonne plus comme ça et on ne veut pas raisonner comme ça. Mais tous ceux qui avaient critiqué, notamment la France, quand elle avait commencé un dialogue avec Vladimir Poutine, s'aperçoivent que le dialogue peut se passer au-dessus de leur tête, entre Washington et Moscou. La sécurité des Européens, il faut que les Européens sachent ce qu'ils ont à demander, ce qu'ils ont à dire pour être audibles quand ils sont à la table, plutôt que d'être au menu.
Mais j'entends ce que vous dites, mais je ne sais pas si ce qui se passe en ce moment fait reculer ou avancer le fameux serpent de mer de la défense européenne, en fait.
Ah, je crois que si on ne la fait pas maintenant, je ne sais pas quelle crise il nous faudra. On a vu déjà le retrait d'Afghanistan, les conditions dans lesquelles il a été planifié, décidé et mis en œuvre. On a vu que l'Europe était en fait dépendante des choix américains et ne pouvait pas avoir ses propres choix. On voit aujourd'hui avec l'Ukraine qu'une crise se passe à nos portes. On en parle moins, mais dans les manœuvres que la Russie a démarrées avec la Biélorussie, on voit probablement 20 à 30 000 soldats russes s'installer sur le territoire de la Biélorussie. Est-ce qu'ils vont y rester? Est-ce que la Biélorussie va, par exemple, changer sa constitution? Elle a prévu d'en discuter dans quelques jours. Et est-ce qu'on va avoir des troupes russes stationnées en permanence en Biélorussie? Ce qu'on voit peut-être, c'est peut-être moins Munich, comme quelques-uns le disent, peut-être moins Yalta, une forme d'Anschluss.
Mais vous avez même eu, face à vous, quand vous êtes revenu pour faire un peu le compte-rendu aux parlementaires européens de ce qui s'est passé à Kiev. Un Allemand a prononcé cette phrase, phrase de 1938.
Oui, oui, bah, il est allemand. Il est naturel qu'il ait ce prisme à l'esprit. Nous, on voit aussi beaucoup un Yalta, c'est-à-dire un Vladimir Poutine qui aimerait revenir un peu avant la chute du rideau de fer et dire bah, tout ce qui est à l'est de l'Europe, je m'en occupe, tout ce qui est à l'ouest, fais ce que vous voulez. Et puis, c'était cette espèce d'Anschluss qui n'en a pas le nom avec la Biélorussie. On sait très bien que Loukachenko, aujourd'hui, ne tient que grâce à Vladimir Poutine. On voit aussi que l'environnement immédiat de la Russie ne se tourne vers Moscou qu'avec la violence, qu'avec la force, qu'avec la répression, parce que là, il n'y a plus de force d'attraction du modèle russe.
Et ce qu'on voit aussi, parce qu'on y viendra tout à l'heure dans le reportage, c'est que la Crimée, une fois annexée, honnêtement, on n'en parle plus, c'est fini, c'est une histoire qui est désormais réglée. La crainte, vous la lisez comme moi, c'est si demain les Russes, qui ne vont pas envahir l'Ukraine, mais peuvent mettre des pieds dans Mariupol, par exemple, une fois que c'est fait, non ou pas?
Alors, pas vraiment, parce que aujourd'hui, ce que nous disons, nous sommes, j'allais dire, heureusement, nourris de l'expérience de ce qui s'est passé en Géorgie avec l'Ossétie et l'Abkhazie, de ce qui s'est passé en Crimée en 2014. S'il n'y a pas de réponse forte, unie, des Occidentaux et en particulier des Européens, évidemment, Vladimir Poutine nous teste. Depuis le retrait américain d'Afghanistan, il se dit finalement ces gens ne sont pas déterminés, je peux pousser mes pions. Et c'est à nous de lui montrer que le coût est bien supérieur à ce qu'il imagine être un bénéfice et qu'on ne voit vraiment pas.
Une toute dernière chose, Nathalie Loiseau, dans le compte-rendu que vous avez fait, effectivement, on a entendu des parlementaires français d'ailleurs notamment, dire il faut que vous parliez au Parlement, il faut que nous discutions de ça, des réponses que nous donnerons pour voir quelle est la graduation aussi et jusqu'à quel point est-ce que il y aura une discussion de cette ampleur-là au Parlement européen.
Il y en a déjà une, on a voté un texte au mois de décembre. Il est vraisemblable, en tout cas on va le demander pour qu'on puisse en rediscuter encore au mois de février. Et on votera justement à la plénière du mois de février le rapport que j'ai rédigé sur la défense européenne, que je viens d'actualiser, vous l'imaginez bien, pour que le Parlement européen, c'est-à-dire ceux qui sont élus directement par les citoyens, puissent donner leur avis sur cette défense européenne que les citoyens européens appellent vraiment de leur vœu.
Mais de défense européenne, mais aussi sur l'Ukraine. S'il doit y avoir une décision sur l'Ukraine, même du Parlement, c'est question de l'Ukraine. Nathalie Loiseau, eurodéputée La République En Marche, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement. Merci beaucoup de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde et ça nous laisse dans la même ambiance, donc d'antagonisme russe et ukrainien, puisque c'est en Crimée que nous allons, où les Russes emménagent toujours plus nombreux, où les investissements russes sont très lourds. Bref, il n'y aura pas de retour en arrière, c'est Sylvain Tronchet qui va nous le raconter. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars, Sébastien Logeni.
Un soldat chinois a porté la flamme olympique aujourd'hui au JO de Pékin et ça déclenche la colère des Indiens.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir. Des excavations, la diplomatie de l'énergie entre Européens, puisque l'Union essaye par tous les moyens, même controversés, de sortir du charbon avec sa taxonomie, un mot qu'on trouve dans le dictionnaire quelque part entre tartelette et tchernosium.
Le monde d'après, Franck Madbon, bonsoir à vous, Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Au Canada, un mouvement de routiers anti-vaccins menace de s'étendre. Embarras pour le gouvernement Trudeau.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il fait une petite escale avec Cat Power, Bad Religion sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Ce soir prolonge notre discussion avec Nathalie Loiseau. Nous sommes en Crimée, annexée en 2014 par la Russie. La Crimée reste sous un régime de sanctions internationales. Évidemment, l'annexion est toujours contestée. La Crimée jamais reconnue comme russe. Et pourtant, est-ce qu'on imagine un jour en Crimée un retour dans l'Ukraine? Quasiment personne ne l'imagine. De plus en plus de Russes y emménagent. L'État fédéral investit massivement pour transformer le territoire. Et le reste, c'est Sylvain Tronchet qui raconte.
Il fait grand soleil, mais à peine 2 degrés sur la plage de Féodosia, dans le sud-est de la Crimée. Dans cette station balnéaire, un peu défraîchie, quelques touristes se promènent, comme Vera, venue de Novosibirsk, en Sibérie.
Je croyais qu'ici on pouvait se baigner toute l'année, mais en fait non. Je pense que c'est un endroit où il fait bon vivre, c'est accueillant. On y est comme à la maison. Maintenant, c'est la Russie et c'est très bien comme ça.
La Crimée est donc russe depuis l'annexion de 2014 et le référendum qui a donné, d'après les résultats officiels, 97% de oui au rattachement avec la Russie. Pourtant, rien de tout cela n'a été conforme au droit international. Mais n'allez surtout pas le dire à Vladimir, un retraité de Féodosia.
Vous êtes en train de me dire que c'est une terre ukrainienne ici ? Non ! Et le référendum alors, ça ne compte pas ? En réalité, Poutine est quelqu'un de légitimiste. Il fait tout selon la loi. Mais la version des Occidentaux est une contre-vérité.
Sur cette terre majoritairement russophone, l'arrivée des militaires russes a été globalement bien accueillie. Mais la Crimée en paye toujours le prix sous la forme de sanctions internationales qui dissuadent les banques russes, les opérateurs téléphoniques d'opérer sur le territoire. Les habitants doivent parfois faire des heures de route pour se rendre en Russie continentale pour régler des formalités. Nadia, une professeure d'anglais, a voté pour le rattachement à la Russie, mais elle regrette son ancien passeport.
C'est compliqué pour moi de voyager à l'étranger parce que nous avons des sanctions et c'est plus difficile de faire des passeports internationaux. Actuellement, je vais faire des voyages souvent à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais je voudrais voyager la France, en France, visiter ce pays magnifique. Mais malheureusement, ce n'est pas possible et ça m'attriste, c'est triste.
Nadia s'est accommodée néanmoins de la situation, comme tout le monde ici. Quelques entreprises emblématiques ont quitté la péninsule à cause des sanctions, comme McDonald's, mais d'autres ont trouvé le moyen de les contourner. Et puis, la construction du pont de Kertch, qui relie la Crimée à la Russie continentale, a changé pas mal de choses pour Alexandre Gorny, un blogueur bien connu en Crimée.
À Simferopol, il y a les magasins Auchan, métro, il y a des concessions de tous les grands constructeurs automobiles. Grâce à la construction du pont de Crimée, les distributeurs de la région de Krasnodar couvrent tous nos besoins en nourriture et en marchandises. Aujourd'hui, on construit des centres logistiques. C'est pourquoi je suis convaincu que les sanctions n'ont aucun impact sur la Crimée.
Les sanctions n'ont donc presque rien changé. Au contraire, même peut-être, la Russie a ouvert en grand le robinet à subventions qui arrosent la région et qui ont payé la nouvelle autoroute sur laquelle on double de nombreux convois militaires en ce moment. Au bout de la route, il y a Sébastopol, où nous croisons Elena.
Ils investissent vraiment dans l'économie, c'est visible. Avant, la ville de Sébastopol était à l'abandon, c'était honteux. C'était très dégradé et il n'y avait pas d'école maternelle. Maintenant, ils en construisent avec d'autres équipements publics et ça nous apporte du bien-être.
La Crimée serait donc en train de devenir un petit Eldorado pour les Russes du continent qui y arrivent toujours plus nombreux. Nous partons dans un de ces quartiers qui poussent comme des champignons ces dernières années. Le chauffeur de taxi râle, il y a toujours plus d'embouteillages à Sébastopol, qui est passé de 400 000 à 650 000 habitants depuis l'annexion. Yevgenia est arrivée de Sibérie il y a 3 ans avec mari et enfant.
Les conditions environnementales à Krasnoyarsk n'étaient pas bonnes pour la santé de notre fille. Je n'ai pas réfléchi au fait que la situation de la Crimée était particulière. Je ne m'intéresse pas à la politique. Mais nous n'avons pas l'impression d'être à l'étranger et nous nous sentons totalement en Russie.
Ainsi, la Russie achève sa reconquête de cette région. La majorité des habitants n'envisagent plus leur vie qu'en Russie, comme Ivan, un guide touristique de Yalta.
Je pense que si l'histoire s'était passée différemment et que la Crimée était restée ukrainienne, je serais parti m'installer à l'étranger, comme le font toujours aujourd'hui beaucoup d'Ukrainiens. La seule chose que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'étrangers qui viennent. Beaucoup moins que du temps de l'Ukraine, quand les frontières étaient ouvertes.
Ivan, comme les autres, ne peut pas imaginer que la Crimée redevienne ukrainienne un jour. La question semble gelée, elle n'est même plus évoquée par les dirigeants occidentaux. Vladimir Poutine n'envisage même pas une seconde d'en parler avec les Ukrainiens. La Crimée le paye d'un certain isolement, mais elle s'en accommode.
Sylvain Tronchet, en Crimée, correspondant de France Inter en Russie, à très vite, bien sûr. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale. Passé sous les radars, et c'est Sébastien Logini. Et Sébastien, nous sommes en Arabie Saoudite, au pèlerinage de la Mecque, qui maintenant a sa version virtuelle.
Oui, ce n'est pas l'œuvre d'un obscur geek ou d'une start-up de jeux vidéo. L'initiative a été lancée par les cheikhs saoudiens, le responsable de la grande mosquée, en clair, l'État saoudien lui-même. C'est officiel. Depuis la fin décembre, on peut désormais s'approcher et toucher la fameuse pierre noire de la Kaaba à la Mecque grâce à la réalité virtuelle.
VR, oh, ça ?
VR.
Vision reality, ça ? Vision reality.
On entend là la télé égyptienne qui s'est fait l'écho de cette invention dans un reportage. On y voit un fidèle habillé de blanc, casque virtuel sur le visage, s'approcher et toucher une réplique virtuelle de la pierre noire, cette pierre sacrée pour les musulmans, descendue sur terre directement du ciel et donnée au prophète Mohammed selon la tradition musulmane. Pendant le pèlerinage à la Mecque, l'un des cinq piliers de l'islam, c'est normalement la fin du rituel. On est censé essayer de toucher cette pierre, frontières, mais l'affluence est telle, 2 millions de visiteurs chaque année, qu'il est souvent impossible d'y accéder. On peut au mieux tendre la main vers elle. Alors, afin de permettre malgré tout aux pèlerins du monde entier de vivre cette expérience, l'Arabie Saoudite a donc mis au point ce programme immersif qui fait désormais débat au sein des théologiens du monde entier. Une visite virtuelle de la Mecque depuis son salon vaudra-t-elle pèlerinage? À ce stade, la réponse est claire, c'est non, pas question de prier en ligne. Un islamologue turc est très clair, si vous mangez dans le monde virtuel, votre estomac ne sera pas repu pour autant. De la même façon, une visite virtuelle ne dispense pas de l'obligation d'effectuer le pèlerinage. Rien ne peut donc remplacer la présence physique sur les lieux saints.
La colère de l'Inde à la veille de l'ouverture officielle des JO en Chine.
C'est un incident de plus pour cet événement déjà riche en tensions diplomatiques. Vous en parliez ici même, Fabienne, hier soir. Là, c'est la présence officielle d'un soldat chinois pendant le parcours de la flamme olympique qui pose problème à New Delhi. Ce soldat s'appelle Qi Fabao et il était présent il y a un an et demi lors des violents affrontements dans l'Himalaya, une zone convoitée par les deux pays, la Chine et l'Inde. Affrontement qui avait fait 20 morts chez les soldats indiens et 4 chez les soldats chinois. Là, ce sont des images de la télé officielle chinoise à l'époque en juin 2020 avec des commentaires très martiaux. Le soldat chinois Qi Fabao avait alors été blessé à la tête pendant cette bataille, présenté ensuite comme un héros par le régime communiste, prêt, dit-il, à retourner au combat. Et aujourd'hui, donc, l'un des 1200 relais de la flamme olympique, une guerre de l'information dénoncée par les médias indiens qui déplorent un geste politique agressif.
Allez, on termine en Espagne avec la sortie d'un livre choc sur le trafic de drogue.
Ça s'appelle Farinha, comme la farine, métaphore de la cocaïne. Le livre a fait sensation en Espagne il y a 7 ans et il sort aujourd'hui dans sa version traduite en français. Farinha est une sorte de Gomorra à l'espagnol, du nom de ce best-seller italien qui avait valu à son auteur Roberto Saviano d'être condamné à mort par la Camorra napolitaine. Ici, on parle trafic de drogue en Galice dans les années 90.
Quanto le dio? 5.000. Solo?
Vale, spusco al signor Terito.
Voilà, c'est la bande-annonce de la série adaptée du roman Farinha. Le livre décrit donc la trafic de cocaïne dans les ports du nord de l'Espagne à la frontière avec le Portugal. Le trafic, un trafic issu historiquement de la culture de la contrebande pendant la guerre civile espagnole qui s'est ensuite poursuivie dans les années 60 avec les cigarettes avant de culminer avec le trafic de stupéfiants. Dans les années 90, 80% de la poudre blanche consommée en Europe provenait des ports de Galice. En revanche, à la différence de la mafia mafia italienne, décidément. Les trafiquants espagnols n'ont jamais gangréné les institutions espagnoles. L'auteur de Farinha, Nacho Carretero, n'a heureusement pas connu le même sort que Roberto Saviano, obligé depuis 15 ans de vivre sous protection policière permanente et qui d'ailleurs sort lui aussi aujourd'hui un roman graphique sur sa vie de journaliste traqué.
Merci beaucoup Sébastien Lougénie. Sous les radars revient évidemment lundi, donc vous aussi, et vous partez avec une version très très étonnante des bancs publics de Brassens. Hein.
Ah,
vous connaissez celle de Yael Naïm ?
Pas du tout.
Eh ben la voilà. C'est bien fait. Hein.
Keep my love inside, love inside, love inside.
version des bancs publics par Yael Naïm. Merci à Djoubaka, le programmateur musical d'Un jour dans le monde. Vraiment. Allez, direction Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est tous les jeudis. Pierre Benazé, vous nous reparlez d'un feuilleton dont il a beaucoup été question. La taxonomie, ce mot le plus jargonesque du moment, le fameux label vert octroyé donc hier par la Commission européenne au nucléaire et au gaz. Mais ça beau être du jargon, Pierre, ces deux énergies se retrouvent au centre d'une tourmente européenne qui risque de durer des mois.
Oui, parce qu'on a déjà vu plusieurs ONG et des partis politiques accuser l'Europe de dévoyer ses propres engagements climatiques, d'avoir sapé sa propre crédibilité. L'Autriche veut lancer une procédure devant la Cour de justice de l'UE. Le Luxembourg accuse la Commission de forcer la main aux 27 en choisissant un instrument qui ne permettra pas de construire une majorité contre le projet. En fait, tout le monde ne s'oppose pas à la même chose. Par exemple, parmi ceux qui sont très remontés contre le gaz, on trouve les Pays-Bas qui sont en revanche en passe de reconstruire des centrales nucléaires.
En tout cas, Pierre, la Commission européenne ne peut pas dire qu'elle est surprise. Elle savait qu'elle mettait le doigt dans un engrenage risqué en mettant ce label vert au nucléaire et au gaz.
Alors c'est vrai, mais elle se défend bec et ongles. Elle affirme qu'en fait c'est pas vraiment un label vert à proprement parler, c'est juste un instrument financier. Le but de la taxonomie, assure-t-elle, c'est de donner des certitudes aux investisseurs privés. Elle doit permettre cette taxonomie à ceux qui veulent d'être certains qu'ils mettent leur argent dans des investissements qui serviront à atteindre la neutralité carbone. C'est absolument pas destiné à orienter les choix énergétiques des États de l'UE, affirme la Commission, et elle ajoute qu'en plus, le nucléaire et le gaz sont expressément désignés comme énergie de transition pour abandonner le pétrole, le gaz de schiste, le charbon.
Alors le charbon, c'est vraiment effectivement le problème central, c'est l'engagement qui a été pris à Glasgow, sortir du charbon, donc ça va pas se faire sans mal parce que certains pays en dépendent, on le sait largement, comme la Pologne, qui justement a un conflit souterrain avec la République tchèque pour une mine de charbon.
Oui, ça c'est encore un autre feuilleton européen qui a rebondi ce matin du côté de la Cour de justice de l'UE à Luxembourg. On connaît les tensions que peuvent créer des installations énergétiques installées près des frontières. En France, on a par exemple la centrale de Chaux, près de Dinan, près de la frontière belge, ou encore celle de Cattenom, près de la frontière luxembourgeoise. Mais ici, on est carrément sous la frontière, et même sous deux frontières, puisqu'il s'agit d'un tripoint. Alors ça, c'est du jargon de géographe.
Comme vous dites, ouais.
Ça, c'est bien. ça parle de la jonction de trois limites. Alors, c'est la mine de Turo. Elle se trouve en Silésie polonaise, mais elle est localisée dans un territoire presque totalement entouré par la République tchèque et par l'Allemagne. Côté allemand et tchèque, c'est des champs, c'est des bois. Mais côté polonais, c'est une centrale à charbon, réputée être la septième la plus polluante en Europe. Et surtout, à côté, une immense mine de charbon à ciel ouvert, un trou béant de 200 mètres au plus profond qui s'approche dangereusement des deux frontières voisines.
Et cette mine, Pierre, c'est le symbole de la difficulté de la transition énergétique européenne.
Oui, parce que la Pologne est encore très dépendante du charbon pour ce qu'on appelle son mix énergétique. Elle a autorisé une première fois la prolongation de Turo jusqu'en 2026. Cette autorisation a été attaquée par les Tchèques. La Cour de justice a condamné la Pologne à 500 000 euros d'astreinte quotidienne tant que la mine de Turo ne serait pas fermée. Entre-temps, une autre prolongation avait été accordée, tenez-vous bien, jusqu'en 2044. Et cette prolongation contrevient au droit de l'UE, a estimé ce matin l'avocat général de la Cour de justice. Il rejoint d'ailleurs un juge polonais. Mais la Pologne s'accroche, la mine tourne encore et l'amende européenne s'accumule. Rien n'a été payé et on est déjà à 70 millions d'euros au compteur.
Allez, Pierre Benazé avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup et à jeudi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Ce soir, Franck, depuis près d'une semaine au Canada, les anti-vax protestent contre les contraintes sanitaires. Tout est parti d'une contestation de routiers opposés à l'obligation vaccinale pour franchir la frontière avec les États-Unis. Cette mobilisation est soutenue par des milliers de Canadiens qui ont convergé vers la capitale, Ottawa. Elle est aussi relayée par des cercles complotistes et d'extrême droite. Le mouvement pourrait s'étendre dans les jours à venir et son succès soulève aussi de nombreuses questions.
Alors évidemment, au Canada, Fabienne, ce mouvement surprend. Le pays est peu habitué aux grandes manifestations, surtout par moins 20 en plein hiver. Or, voilà près d'une semaine que des dizaines de camions sont installés à Ottawa, la capitale fédérale, au pied du Parlement. Ils étaient même des centaines, peut-être des milliers le week-end dernier. Vous connaissez, Fabienne, ces trucks américains imposants au chrome lustré, au klaxon assourdissant. Ces camions ont convergé des quatre coins du pays. Les organisateurs ont baptisé le mouvement Freedom Convoy, convoi de la liberté. Calais. Jusqu'à 15 000 personnes sont venues soutenir ces routiers ce week-end. En général, les manifestants ne portent pas le masque. Ils protestent contre les contraintes sanitaires, donc. Ils s'en prennent au Premier ministre Justin Trudeau et à son gouvernement. Ils comptent dans leur rang, en effet, beaucoup de militants d'extrême droite. On a même vu dans les rassemblements des croix gammées ou des drapeaux confédérés américains, symbole des suprémacistes blancs aux États-Unis. Mais c'est un mouvement hétéroclite, difficile à cerner, qui rassemble beaucoup d'opposants au gouvernement Trudeau et des Canadiens qui demandent plus de liberté et refusent que l'État décide à leur place. On pense au Tea Party américain, voire aux Gilets jaunes en France.
En tout cas, Franck, ce mouvement rencontre un vrai succès.
Oui, d'abord à peu près tous les ultra-conservateurs d'Amérique du Nord s'en sont emparés. Sans surprise, Donald Trump, le premier d'entre eux, a apporté son soutien à ces routiers canadiens. Elon Musk, le patron de Tesla, a lui aussi fait de la publicité au mouvement. Il est connu pour être très libéral, partisan du moins d'État. Et de nombreux Canadiens se reconnaissent dans la mobilisation. L'idée de ce convoi a été lancée par une figure populiste, le routier Pat King, un climato-sceptique qui défend la thèse du grand remplacement, membre fondateur d'un petit parti séparatiste d'Alberta, province de l'ouest du Canada. Et le mouvement a donc agrégé beaucoup de mécontents. Le cortège a traversé le pays. Sur la route, il a reçu le soutien de milliers de personnes dans les villes par lesquelles il est passé, sur les axes routiers. Une nouvelle mobilisation est d'ailleurs prévue à partir d'aujourd'hui dans la ville de Québec et elle devrait s'amplifier ce week-end. Preuve du succès du mouvement. En deux semaines, une cagnotte de soutien a réuni plus de 10 millions de dollars canadiens, 7 millions d'euros. Elle a été suspendue hier, le temps de vérifier si elle est bien conforme aux règles du site qui l'accueille.
Alors ce qu'il faut dire, Franck, c'est que les contraintes sanitaires au Canada ont été sévères.
Oui, c'est un pays où les règles sanitaires ont été strictes. Dans cet État fédéral, tout dépend des provinces, mais de nombreux lieux publics sont encore fermés et le pass vaccinal est souvent un sésame indispensable. Dans la province de Québec, les restaurants viennent seulement de rouvrir avec une jauge à 50%. Un couvre-feu a été imposé pendant 5 mois l'an dernier et les non-vaccinés ne peuvent pas entrer dans les magasins vendant de l'alcool ou du cannabis légal dans le pays. Certains Canadiens ne supportent pas ces contraintes et défendent leur liberté. Pourtant, il faut le dire, 90% des adultes sont vaccinés dans le pays.
Et ce mouvement a aussi des conséquences politiques.
Hier, le leader du parti conservateur Erin O'Toole a perdu son poste. Il a été viré par les députés de son camp en raison d'une ligne jugée trop centriste. Sa position ambiguë sur le convoi de la liberté a été le dernier clou dans le cercueil. Il a d'abord critiqué le mouvement avant de tenter maladroitement de s'en rapprocher, le mal était fait. À vrai dire, la classe politique canadienne est mal à l'aise avec ce mouvement. Certes, on peut le considérer comme un agrégat de conspirationnistes d'extrême droite. C'est à ça que le résume par exemple Justin Trudeau qui parle de gens aux pensées inappropriées. Mais cette mobilisation interroge aussi les gouvernements au Canada et pourquoi pas ailleurs dans le monde sur leur capacité à rassembler leur société et à ne pas laisser au bord du chemin des minorités très contestataires.
Franck Madvon et Le Monde d'après tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste avant. Il y a le journal d'Hélène Philly qui vient de s'installer. Merci de passer la soirée avec nous et surtout, ne changez rien.